La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours parmi les titres de morceaux de jazz et, comme vous vous en souvenez sans doute, nous en étions non plus au dictionnaire principal, mais au supplément et à la lettre H.
Je suis sûr que vous vous en souvenez.
Ah oui, sinon vous n'avez plus qu'à réécouter les vieilles émissions où vous avez certainement mises en cassette, comme disait Van Christoph Averty. Et nous commençons par un morceau qui s'appelle...
H et M Blues.
Qui se cache derrière ces initiales H et M ?
Allez, devinez, devinez.
On en a souvent parlé sur cette antenne, dans cette émission. Il s'agit de Hugues et de Madeleine, c'est-à-dire...
Le couple Hugues Panassier-Madeleine Gauthier.
Inséparables travailleurs du jazz, dont une des œuvres communes a été leur fameux dictionnaire du jazz. Et l'artiste qui va s'adresser à eux, qui leur a dédié ce morceau, c'est Willie Smith, dit Le Lion.
Imaginez, vers les années 60, c'est là où nous l'avons connu, un grand, beau et vieux noir qui se promenait dans les rues de Paris avec un chapeau melon. C'est déjà un peu rare, voyez. Une allure tout à fait noble. Et de temps en temps, un cigare au coin du bec.
Un gros cigare et un inamovible gilet rouge. Mais au-delà de cet aspect très particulier, Le Lion a été un des plus grands pianistes de jazz. Il a été l'inspiration de Duke Ellington. Il était un des trois grands pianistes stride de Harlem. Enfin, c'est un personnage historique, un morceau d'histoire lui tout seul.
Et c'est un homme qui aimait... follement la France. Il l'avait connue dans des circonstances pas faciles, puisque c'était pendant la guerre.
De 14.
Ah oui, de 14, attention.
Enfin, pour lui, de 17. D'ailleurs, c'est là qu'il avait gagné son surnom de The Lion, le lion.
Puisqu'il s'était battu comme un lion.
Et son colonel en a parlé en disant quelque chose du genre « Si tous mes soldats avaient été comme ce Willie Smith, on aurait gagné la guerre plus vite. » Et là, nous nous retrouvons dans une séance d'enregistrement, d'ailleurs à laquelle nous avons assisté, à Paris, en présence d'Hugues Panassier et de Madeleine Gauthier. Et Le Lion a tenu à leur dédier le morceau qui suit, qui est un blues. Et c'est très rare d'entendre Le Lion jouer le blues, d'ailleurs. Et là, il le joue d'une manière tout à fait particulière. Une sorte de blues lyonnesque. Thank you.
Le morceau suivant, eh bien, il s'agit de HCF Boogie. Et c'est joué par Memphis Slim et Jean-Paul Amouroux. Alors que je vous présente Memphis Slim, c'est un peu le même genre que Willie Smith The Lion. Memphis Slim, ça veut dire mince. Imaginez donc un type grand, mince, avec beaucoup d'allure.
Très grand, très grand.
Vraiment très grand. Et quand nous l'avons connu, il avait une mèche blanche qui commençait bien au milieu des cheveux.
Ah, vous aviez repéré la mèche.
N'est-ce pas? Et lui aussi, c'était un amoureux de la France. Il y vivait en partie en Angleterre, en partie en France. Et il avait été amené, bien sûr, en France, par les inaltérables Hugues Panassier et Madeleine Gauthier.
Que les hasards de l'alphabet nous ont permis d'évoquer dans le morceau précédent. Et il faut dire que de Hugues Panassier et Madeleine Gauthier au Club de France, il n'y a qu'un pas, puisque c'était respectivement le président et la trésorière de l'association qui organisait les tournées, et en particulier d'ailleurs également celle de Willie Smith le Lion, avec supervision de séance par Panassier. Et également, la toute première tournée de Memphis Slim en France a été organisée par l'Hôtel Club de France, d'où cette réminiscence de Memphis Slim qui, à l'époque, avait enregistré un HCF Boogie. Mais là, la version que nous allons vous passer, justement, elle est différente, elle est à deux pianos. Et nous avons tenu à cette version parce qu'elle met en scène un personnage important qui est Jean-Paul Amouroux, et il est important pour nous doublement, puisque en tant que musicien bien sûr, mais également en tant qu'organisateur, puisqu'il s'agit du génial programmateur du seul festival de jazz que nous connaissions dans le Cantal.
Et oui, c'est un cantalien,
lui. Et oui, d'ailleurs, comme son nom l'indique, hein, Amouroux, c'est pas du Cantal, on sait plus où on va. Alors à eux deux, donc, Memphis Slim et Jean-Paul Amouroux, ils ont enregistré ce New HCF Boogie, et se sont même payé le luxe de changer 4 fois de tonalité au cours du morceau.
Ouh, ça c'est des gens savants, hein.
Quand même, quand même. De même, Fitz Slim, au titre suivant, qui s'appelle Homo Flats, il n'y a qu'un pas.
Eh bien, puisque Memphis Slim, il a été hobo. Alors, il faut qu'on vous explique. Hobo, peut-être on vous en a déjà parlé, ce sont les gens qui n'ont absolument pas les moyens de se payer le train et qui profitent des trains de marchandises, souvent, pour se cacher derrière les piles de choses qui sont transportées. Et flats, ça veut dire les wagons qui sont un peu plats. Et c'est bien commode, parce que là, ils n'ont qu'un saut à faire pour se mettre derrière les chargements qui voyagent.
Les hobos, c'est une population extrêmement nombreuse. D'ailleurs, c'est comme ça que la plupart des bluesmen du Sud, et Memphis Slim, qui était né dans le Tennessee, à Memphis, comme son nom l'indique, parce qu'il s'appelait en réalité Peter Chatman, c'est comme ça que ce cher Slim avait rallié Chicago, où il a commencé à être connu. Et puis là, il a eu un énorme coup de chance. Il a composé un blues qui a eu un succès fou et qui lui a rapporté pas mal d'argent. Et à partir de là, nous avons connu le Slim qui n'était plus hobo, mais à la limite du dandy. Le morceau s'appelait « Everyday I Have the Blues », un morceau très très connu.
À partir de là, il a voyagé en avion, hein.
Ah oui, ça c'est sûr. Mais nous en sommes à Hobo Flats. Maintenant qu'on vous a dit ce que c'était qu'un Hobo Flat, il n'y a plus qu'à l'écouter. Il est joué par l'orchestre de Count Basie, qui a pour l'occasion recruté un harmoniciste très bluesy. Et nous sommes dans une forte ambiance. Tu sais que ces gens voyageaient léger. Le guitariste, c'était déjà celui qui voyageait très lourd, mais l'harmoniciste, c'était dans sa poche. Et quant au pianiste, il était les mains dans les poches. Yeah.
Maintenant, on va aller dans le sud profond, avec Muddy Waters.
Les eaux boueuses.
Vous pensez bien que son vrai nom, ce n'est pas Muddy Waters. Il l'a choisi parce qu'il est du Mississippi. Et les eaux du Mississippi, c'est très très boueux. Et c'est là qu'il va nous parler avec ce morceau qui s'appelle
« I'm your hoochie-coochie man ».
Ce qui veut dire « Je suis votre sorcier vaudou ». Celui qui dit l'avenir, mais qui ne se contente pas de dire l'avenir, il peut aussi jeter des sorts, en enlever. Ben, je vous avais dit qu'on était dans le sud profond.
Ah oui, puis alors de toute façon, il vend beaucoup de choses aussi. Il vend des filtres, il vend
d'amour.
Des produits pour de rendre les gens fous. Enfin, c'est très très compliqué le vaudou. D'ailleurs, je vous dis tout de suite que nous n'y connaissons pas plus que ça.
Et on n'a pas vraiment envie de connaître non plus.
Non plus, non plus. D'ailleurs, je ne sais pas si à Saint-Flour, il y a des gens qui pratiquent le vaudou, mais enfin, ça m'étonnerait sous nos latitudes. Quoique, quoi qu'il en soit, voici M. McKinley Morganfield, c'était son vrai nom, dans I'm your hoochie coochie man.
The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know the
I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world I know the hoochie coochie man. But you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know I'm here.
Tu te souviens qu'il y a quelques jours, l'équipe de France a mis la pâtée aux Irlandais, ça tombe bien.
La pâtée, on est un peu généreux quand même.
Moi je dis qu'on leur a mis la pâtée. Hein.
Mais on a gagné.
Vous voyez, plan de shot. Et justement, le morceau suivant nous emmène en Irlande.
Oui, avec It's a Long Way to Tipperary.
Tipperary est une petite ville qui se trouve dans le comté du même nom. Et dans la province du Munster, qui est également très connue sur le plan rugbystique.
Elle est devenue célèbre pendant la guerre de 14.
La chanson que vous allez entendre a été adoptée par les soldats britanniques. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais c'est parce que c'était une chanson de marche qui avait de la dynamique. Et en fait, elle avait été composée quelques années plus tôt. Et même l'auteur des paroles a demandé que la première ligne des paroles, la route est longue jusqu'à Tipperary, soit gravé sur sa tombe. À l'époque où la chanson a été composée, les Anglais, qui dominaient l'Irlande, puisque l'Irlande n'était à l'époque pas indépendante, avaient transformé Tipperary en une énorme ville de garnison avec un hôpital militaire. Donc c'était une sorte de concentration de troupes pour aller occuper l'Irlande, en fait. C'est pourquoi, d'ailleurs, les paroles font allusion à quelques sites londoniens qu'on a bien du regret à quitter. Et puis après, bah, comme il fallait quitter tout pour aller se battre en France, cette chanson a été réadoptée par les Tommies. Et puis après, elle est passée dans le jazz parce qu'elle a servi à des revues. C'est une chanson qui a de la dynamique. Nous avons eu la surprise au Dumoustier Stompers quand nous avons commencé notre parcours avec la chanteuse Carole Lee, qui était américaine. Nous avons eu la surprise de voir dans son répertoire quelques morceaux de ce genre et nous lui avons donc naturellement demandé d'enregistrer avec nous It's a Long Way to Tipperary.
It's a long way to Tipperary. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long
Et maintenant, il est temps de passer en cuisine.
Miam miam.
Voici un morceau qui s'appelle Jambalaya. Et la Jambalaya, c'est un plat de la Nouvelle-Orléans dont vous nous direz des nouvelles puisque nous allons vous expliquer comment ça se fabrique. Et vous pourrez aller podcaster cette émission en prenant votre temps pour prendre des notes si vous le désirez. Voici donc la recette de la Jambalaya.
Avez-vous un crayon? Marquez-le maintenant. Autrement, comme dit Laurent, vous pouvez toujours aller le podcaster.
1. Vous faites chauffer 75 centilitres d'eau dans une casserole. 2. Quand elle bout, ajoutez les cubes de bouillon et remuez pour bien les diluer. 3. Égouttez les tomates, épépinez-les grossièrement et coupez-les en morceaux. 4. Coupez les blancs de poulet et le jambon en morceaux à l'aide de ciseaux. Tout ça, c'est pas si compliqué que ça, hein. 5. Coupez le chorizo en rondelles pas trop fines. 6. Épluchez les gousses d'ail et hachez-les. Épluchez les oignons. Ah, on pleure. Et coupez-les finement. Lavez le poivron et le céleri et coupez-les en petits morceaux. 7. Ah, voyez, vous avez déjà tout coupé en morceaux, hein.
Oui, puis on vous a donné les ingrédients au fur et à mesure.
Ben voilà. Dans une poêle, faites chauffer un filet d'huile. Ajoutez le poulet. Faites-le revenir 3 minutes. Ajoutez le chorizo et le jambon. Poursuivez la cuisson 2 minutes. Conservez hors du feu. 8. Dans une cocotte à feu doux, faites chauffer le second filet d'huile. Ajoutez les oignons, l'ail, le poivron, le céleri. Laissez cuire 4 minutes en mélangeant sans cesse. Puis versez le riz et faites-le cuire 2 minutes en remuant. Ajoutez le jambon, le chorizo, le poulet, le concentré de tomates et les tomates pelées. 9. Versez le bouillon de volaille chaud, l'origan, le thym, le clou de girofle, le piment. Salez et poivrez. Couvrez et laissez mijoter. Alors là, il faut quand même un peu de temps, hein. 20 à 25 minutes environ en mélangeant régulièrement. Mais vous n'avez pas perdu votre temps parce que pendant ce temps-là, vous lavez le persil et vous le coupez bien finement. Et enfin, la dernière étape, 5 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez les crevettes dans votre jambalaya, rectifiez l'assaisonnement si besoin, puis servez le tout illico, presto, parsemé de persil plat.
Il resterait à vous donner les proportions, mais nous ne le ferons pas, car il y a autant de jambalaya que de cuisiniers ou de cuisinières, et toutes les proportions vous appartiennent, à vous de faire vos essais. Peut-être y mettrez-vous des années. Allez savoir. En tout cas, Kidori, lui, il a mis un peu plus de 3 minutes à mettre cette jambalaya en musique. Écoutez plutôt.
I'm gonna see my share of me, oh. Pick a ton of filbert jaw and be gay, oh. Son of a gun, we'll have me fun on the bayou.
Dans le blues et les chansons populaires noires, il y a un personnage mythique qui s'appelle Joe Turner. Et Joe Turner, c'est un bienfaiteur. D'ailleurs, il a existé, ce Joe Turner. C'est peu à peu devenu un personnage légendaire, mythique. Mais il a vraiment existé, donc. Et Big Bill Brunzi, dans un blues célèbre, a raconté Joe Turner et ce qu'il faisait et comment les gens s'en trouvaient bien. Il l'a enregistré sous le nom de Blues en 1890, ce qui situe l'époque, et voilà les paroles du morceau.
On va vous les dire en français, bien sûr, mais vous imaginez, il le racontait, Big Bill Brunzi, avec son accent un peu traînant du Sud. Cette chanson, il parle de la chanson de Joe Turner, hein, était chantée en 1892. Il y avait eu une terrible inondation cette année-là. Et tous les pauvres gens pleuraient et chantaient cette chanson. Pour qu'on sache combien ils étaient malheureux d'avoir travaillé pendant toute une année sans être payés. Les courants avaient emporté les récoltes et tout ce qu'ils possédaient, ainsi que leurs vêtements, leur bétail. Et le seul homme capable de leur venir en aide, c'était Joe Turner. Car Joe Turner était connu pour venir en aide à tous les pauvres gens, les blancs et les noirs. Et tous pleuraient et chantaient cette chanson. Il paraît que Joe Turner est passé ici et s'en est allé. Seigneur, il paraît que Joe Turner est passé puis s'en est allé. Bien sûr, Joe Turner est passé ici et puis s'en est allé. Et puis il reprend son récit. Alors il sortait pour chasser le lapin, pauvre noir et pauvre blanc, pour attraper quoi que ce soit qu'il puisse manger. Quelquefois ils attrapaient quelque chose, d'autres fois rien. Alors ils rentraient chez eux et regardaient dans leur cuisine. Et là, ils trouvaient de la farine, de la viande, de la mélasse que Joe Turner avait mis pour eux. Ils savaient alors que Joe Turner était passé. Alors ils pleuraient et chantaient cette chanson. Et il savait que Joe Turner était passé. Et qu'il avait laissé de la nourriture, des vêtements, de tout pour eux. Alors il se sentait heureux et se mettait à crier, à danser. Et alors, il se mettait à faire un petit boogie-woogie. Et là, Big Bill Brunzi se lance dans un solo de guitare, d'un swing extraordinairement excitant et original.
This is a song was sung in 1892. It was a terrible flood that year. This song the poor people cried and sung to let everybody know about a whole year's work and no pay. The drought killed their crops, the high water taken all of their belongings and their livestock too. And the only man they knowed who could help them was Joe Turner. Joe Turner was known to help all poor people, the black and the white. Then they would all start singing and crying this song. Tell me, Joe Turner, been here and gone. Lord, Lord, they tell me Joe Turner been here and gone. They tell me Joe Turner been here and gone. Then they would all go hunting, rabbits, coons, possums, anything they could catch to eat. Sometimes they would catch some, most of the time they'd come home with nothing to eat. Then they would look in their kitchens and they would find flour, meat, molasses that Joe Turner had left there for them. Then they would start crying and singing this song. They tell me Joe Turner been here and gone. Lord, Lord, they tell me Joe Turner been here and gone. They tell me, Joe, turn up in here and gone. Then they would find in their kitchens plenty of food. They'd all get happy, start shouting, dancing. And then they would do a little boogie-woogie too.
Pour une fois, nous allons dire de quand date le morceau suivant. En fait, il date de 57. Nous sommes dans une époque très marquée par l'orchestre de Wilbur de Paris. Et la devise de l'orchestre Wilbur de Paris, c'était « de la nouveauté dans la tradition ». Autrement dit, c'est des gens qui sortaient des sentiers battus tout en respectant totalement l'esprit du jazz et du jazz Nouvelle-Orléans. C'est quand même très spécial. Et ils sont allés réinventer tout un tas de choses. Et en voici une qui s'appelle la « Juba Danse ». Juba, c'est un mot d'origine éthiopienne. C'est le nom d'une rivière, d'ailleurs. Mais ce que les gens en ont fait autour de Harlem, c'est tout à fait autre chose.
Il faut voir que quand ça a été composé, cette danse, inventée, si on peut dire, repris cette danse, il y avait en Amérique un mouvement qui était « Nous ne sommes pas des Américains, nous sommes des Afro-Américains ». Ils ont, les Américains noirs ont repris la fierté de leurs origines, à tort ou à raison, mais bon, on ne jugera pas là-dessus. Et tout était un peu l'Afrique en avant. Et cette danse-là, ben c'est justement ça. Ils ont repris une danse à la manière africaine. Donc, tout le monde était autour en cercle, comme ça se passait en Afrique. Au milieu, il y avait deux solistes, je dirais, qui inventait des pas. Et tout le monde reprenait autour les pas en tapant des mains. C'était absolument africain. La voilà, cette Juba danse.
Thank you.
Et nous voilà juste après, dans les années 60, et là, c'est la lutte pour les droits civiques. Tu sais, le fameux discours de Martin Luther King, j'ai fait un rêve, la marche sur Washington, enfin tout un tas d'événements qui ont été extrêmement significatifs dans l'histoire du peuple noir américain. Et un petit peu avant toute cette action, furieux de voir comment les choses tournaient par rapport aux Noirs, l'élu de Harlem, hein, parce qu'il y avait un congressman de Harlem, bien sûr, fait un scandale au Congrès, il démissionne et il s'expulse lui-même du Congrès à grand fracas.
Oui, parce qu'il se disait qu'il n'avait rien à faire avec ces gens-là, qu'il ne leur donnait rien. Et il s'en est expliqué auprès de sa population à lui, en disant, ben, je suis parti par fierté. Et il a employé une expression qui était « keep the face », ce qui veut dire
« gardez la foi ». Hein, « face », c'est la foi.
Soyez fiers d'être ce que vous êtes. Et l'expression, évidemment, s'est répandue comme une traînée de poutre.
C'est devenu une sorte de proverbe et presque de forme de salutation.
Et Jimmy Rushing s'en est emparé pour en faire « keep the face, baby ».
Peut-être pourrions-nous donner le nom du héros de notre temps qui s'est auto-expulsé du Congrès américain, ce qui était quand même pas rien, avec tout cet éclat. Il s'appelait Adam Clayton Powell.
Keep the faith, baby. That's what the man said. Keep the faith, baby. I ain't down, not me, not yet. I ain't down, not me, you bet. Keep the faith, baby. Keep the faith and don't forget. I'm still up. I'm still up and life's okay. I'm still up, and I mean to stay that way. Keep the faith, baby, that's what I say. I'll go on, do my best. I'll go on and never rest. Keep the faith, baby, oh yes. Yes, keep the faith, baby. That's what the man said.
Et maintenant, place à Hubby Blake. Ah là là, celui-là, il est extraordinaire. Il était extraordinaire. Je dis « il était » parce qu'il a quand même vécu quasiment 100 ans.
Il a vécu 100 ans et 8 jours.
Oh là là. Et j'avais oublié les 8 jours.
Ah bah oui, important.
Et alors, il a tout connu, ce Hubby Blake. C'était le spécialiste du ragtime. Quand il jouait, il était tellement enthousiaste. On l'a enregistré extrêmement tard pour lui, disons, puisqu'il avait bien 80 ans. Il chantonnait en même temps qu'il jouait son ragtime. De temps en temps, il poussait des exclamations d'enthousiasme. Ah, une vraie nature géniale. Et là, eh ben, il va parler d'un de ses souvenirs avec Kitchen Tom.
Et ça remonte vieux parce qu'il a enregistré ce morceau quelque chose comme 70 ans après la rencontre qu'il a faite de ce cuisinier d'Atlantic City qui s'appelait Tom. Évidemment, nous voilà à la cuisine, donc c'est Kitchen Tom. Et ce cuisinier était également pianiste, pianiste amateur. Mais, manifestement, Hubie Blake aimait beaucoup cet homme-là. Ils étaient très amis. Et très longtemps après, il a tenu à l'évoquer en jouant un morceau que Kitchen Tom avait l'habitude de jouer à Atlantic City en 1905 sur le piano de l'établissement où il tenait donc deux pianos à la fois. Intéressant.
Oui, quelle cuisine.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.
Thank you.